Je remercie le Collège de France et Monsieur le professeur Shedd qui m'a invité de parler sur Foucault et la peinture. Et comme toujours, je suis très honorée d'être ici où Michel Foucault a enseigné. Dans un autoportrait que vous voyez là, daté de 1641, Salvatore Rosa s'est dépeint comme un philosophe, la main droite posée sur une tablette comportant l'inscription latine « Aut tace, aut loquere meliora silentio ». Reste silencieux, à moins que ta parole soit plus profitable. La citation appartient un fragment du stoïcien Épictète ou Épictétos. Ce tableau s'adresse à la fois au peintre en tant que philosophe et à la peinture en tant que la philosophie. Le poids de la signification de l'inscription latine de l'autre portrait de Rosa se retrouve dans l'article de Merleau-Ponty, Le langage indirect et les voies du silence, dans lequel il écrit « Commençons par comprendre qu'il y a un langage tacite et que la peinture parle à sa façon. » Merleau-Ponty se référait précisément au silence de la peinture en tant que caractère essentiel de celle-ci et qui, comme je proposerai aujourd'hui, constituait un point important pour Lacan et Foucault dans les années 60. Dans l'un des derniers entretiens qu'il a accordé peu avant son décès précoce, Michel Foucault s'est livré à une analogie entre philosophie et peinture. Je cite, « Cette transformation de soi par son propre savoir est, je crois, quelque chose d'assez proche de l'expérience esthétique. Pourquoi un peintre travaillerait-il s'il n'est pas transformé par sa peinture ?» Peinture doit s'entendre ici au double sens de l'action de peindre elle-même et comme l'objet. L'étude par Foucault sur des textes de Kant l'a sans nul doute incliné à s'intéresser à l'esthétique, mais l'usage qu'il a fait de cette discipline dans une éthique de soi vers la fin de sa vie dépasse la perspective de la critique de la faculté de juger kantienne. Dans son entretien de 1984, Foucault expliquait que par éthique, il n'entendait pas, je cite, « un code qui nous dirait de quelle manière nous devons agir », mais plutôt la relation qu'un individu a à lui-même lorsqu'il agit. Au cours de ce même entretien, Foucault révélait que l'effet de la peinture renvoie à un plaisir incroyablement intense qu'il caractérisait par des termes liés au sexe et à la drogue. Qu'entendait exactement Foucault par peinture? Peut-être est-il plus facile de dire ce qu'il n'entendait pas par là. Le livre de Deleuze, Foucault, publié en 1986, tente d'établir la contribution de Foucault à la philosophie par l'introduction de l'opposition entre le visible et le disciple, en tant qu'elle permet de comprendre les formations historiques dans les écrits de Foucault. Deleuze pose que le concept de visibilité, au pluriel, appartient à, je cite, la conception qu'il se fait de la pensée. On ne demande pas seulement de quel objet on part, quelle qualité on suit, dans quel état de choses on s'installe, corpus sensible, mais comment extrait-on de ces objets, qualités et choses, des visibilités? De quelle manière celles-ci scintillent-elles, miroitent-elles, et sous quelle lumière se rassemblent-elles sur la strate? Et encore, dit le philosophe, quelles sont les positions de sujet comme variables de ces visibilités? Qui les occupe et voit? Qui les occupe et voit? Bien qu'il ne soulève pas ce point, une bonne part de la terminologie et des concepts que Deleuze a rencontrés dans l'ensemble de la philosophie de Foucault se manifeste avant tout dans le premier chapitre de Les mots et les choses, où Foucault analyse le tableau de Velázquez connu sous le titre Les Ménines. Dans ce chapitre, Foucault combine une description approfondie de l'usage de la perspective dans le tableau et une analyse du miroir sur le mur, à l'arrière-plan, afin de comprendre, comme Deleuze l'expliquera plus tard, les positions de sujets variables de ces visibilités. Foucault s'étend longuement sur la fonction de ce miroir dans lequel figure, sans éclat, le couple royal. Voici ce qu'il écrit. Le miroir assume une métathèse de visibilité qui entame à la fois l'espace représenté dans le tableau et à sa nature de représentation. Il faut voir au centre de la toile ce qui du tableau est deux fois nécessairement invisible. Un peu plus loin, il ajoute, mais surtout, il est par la triple fonction qu'il occupe par rapport au tableau. En lui viennent se superposer exactement le regard du modèle au moment où on le peint, celui du spectateur qui contemple la scène et celui du peintre au moment où il compose son tableau. Non pas celui qui est représenté, mais celui qui est devant nous et dont nous parlons. Ces trois fonctions regardantes, comme Foucault dit, se confondent en un point extérieur au tableau, c'est-à-dire idéal par rapport à ce qui est représenté, mais parfaitement réel puisque c'est à partir de lui que devient possible la représentation. Si Deleuze a utilisé quelques exemples tirés des écrits de Foucault sur la peinture pour illustrer ce qu'il entendait par l'insistance sur la visibilité, il n'a pas situé les vues de Foucault en la matière par rapport à un médium particulier ou historiquement. Pas plus qu'il n'a considéré que la théorie sur la peinture était au cœur de son argumentaire d'ensemble sur la contribution de Foucault à la philosophie. C'est pourquoi les commentaires de Deleuze sur la peinture chez Foucault adhèrent à son point de vue plus général quant au, je cite, non-rapport entre voir et parler dans l'œuvre entière. Pour Deleuze, la peinture demeure la pratique en quelque sorte fermée sur laquelle était fondée la philosophie foucauldienne. Ce point de vue exprimé assez tôt par un philosophe influent et par ailleurs proche de Foucault a eu des conséquences durables sur l'interprétation des écrits de ce dernier. Ainsi, par exemple, l'enquête approfondie de John Rajachman sur ce qu'il appelle « the art of seeing », l'art de voir de Foucault, développe-t-il certains des arguments de Deleuze pour localiser la visibilité directement dans la personne du sujet, comme dans un art de vivre ou une esthétique de l'existence? On peut dire de la situation de la peinture dans l'œuvre de Foucault qu'elle a été dans une large mesure obscurcie par les tentatives diverses de la comprendre sans considérer des théories particulières de l'histoire de l'art sur la peinture. Or, si l'on prend au sérieux les commentaires de Foucault sur la peinture et la transformation, il nous appartient de comprendre ce que Foucault entendait précisément par peinture lorsqu'il l'a qualifiée d'éthique et de transformatrice. Il n'a rien affirmé de tel sur la visibilité. L'approche distincte de la peinture par Foucault, qui se situait quelque part entre philosophie et histoire de l'art, l'a conduit sur le chemin de la compréhension de la transformation du soi que seule la peinture propose. En découvrant la peinture en tant que véhicule de la transformation du soi, Foucault suivait la voie royale vers la transcendance pour reprendre l'expression qu'il utilise dans son introduction à la rêve de l'existence de Ludwig Binswanger, 1954. Dans ce texte, décrivant les méthodes d'interprétation des rêves et de l'imagination de Binswanger, on trouve ces lignes de Foucault qui pourraient caractériser sa propre méthode d'analyse de la peinture à venir. Je cite, il prend de Béger le problème de l'ontologie et de l'anthropologie en allant droit à l'existence concrète, à son développement et à ses contenus historiques. Dans le premier chapitre de Les mots et les choses, 12 ans plus tard, Foucault adopte pour sa part une approche oblique de l'ontologie et de l'histoire de l'art, en allant droit à l'objet, c'est-à-dire à l'image sur la toile qui consiste en ses techniques, sa description et son histoire. Si Foucault reconnaissait que l'histoire de l'art cherche à, je cite, reconstituer le discours l'étant du peintre, lui cherchait à échapper à une vision du monde individuel de l'artiste. L'archéologie de la peinture, selon Foucault, tenterait pour sa part de démontrer qu'elle était une pratique discursive qui prend corps dans des techniques et dans des effets, et entendre que tel possédait la positivité d'un savoir. David Macy, l'un des biographes de Foucault, a décelé dans l'usage que celui faisait du langage la sensibilité d'un peintre. Quant à l'historien Paul Vane, il a qualifié la méthode historique adoptée par Foucault de picturale, du fait, je cite, qu'il expliquait les objets naturels comme objectivisés, non sur la base d'une force motrice unique, mais sur la base de toutes les pratiques environnantes dans lesquelles ces objets sont ancrés. À la manière d'un tableau, la méthode repose sur l'intégration d'un complexe de formes, de symboles, de techniques et de conditions sociales, tout maintenu en suspension au-dessus d'une surface dont la matérialité dicte tout. Cette tentative de construire une pratique en dehors de l'artiste singulier et de l'individu a abouti en 1969 à une conférence intitulée « Qu'est-ce que c'est qu'un auteur ?» et donnée juste après la publication de « L'archéologie du savoir » où Foucault considère la peinture comme l'objet idéal pour sa méthode, qui retrace le parcours maintenant, en 4 ans environ, de « Les mots et les choses » à ce texte sur l'auteur et à la déconstruction à laquelle il se livre, je cite de « l'unité solide et fondamentale entre l'auteur et l'œuvre », découvre la fécondité de la peinture pour la pensée du philosophe. C'est en effet au cours de 4 années que Foucault a écrit ses textes sur Manet et Magritte et qu'il s'est lié à son contemporain, le peintre Gérard Fromanger. Sans une sérieuse connaissance de l'histoire de l'art, les contributions de Foucault à l'histoire de la peinture, selon une approche chronologique, n'auraient pas été possibles. L'engagement de Foucault pour la peinture ne se limite pas au plan théorique, mais il entre également en contact avec sa matérialité en tant qu'objet dans sa situation historique. Rendant compte de maladies mentales et personnalités dans la revue Critique, le philosophe Roland Calois parlait de matérialisme. On pourrait dire la même chose de l'approche de la peinture dans Les mots et les choses. En effet, l'histoire de la peinture en tant que théorie et des peintres, en tant qu'artefact matériel de la culture et d'une époque répondait parfaitement aux besoins d'un philosophe qui se présentait comme un historien de la culture. Dans la mesure où Foucault attendait de la peinture à la fois théorie et matérialité, son étude requérait des visites aux musées, aux galeries, aux ateliers d'artistes, une correspondance épistolaire personnelle avec ces derniers, ainsi des recherches en matière d'histoire, de l'art et d'esthétique. Dans les écrits de Foucault sur la peinture, le philosophe et l'historien se font collaborateurs pour une histoire de l'interprétation, des significations et des possibilités du médium. Dans la pensée de Foucault, la peinture et des tableaux servent à faire parvenir au visible le travail de la théorie. Là où elle peut se transformer. La conception de la peinture comme transformation peut être qualifiée de post-kantienne. L'entrée dans l'éthique ou une transformation du soi exige de l'esthétique une conscience du travail qu'elle effectue sur nous. Comme l'a déclaré Foucault dans l'entretien où j'ai commencé aujourd'hui, cette sorte de pensée consciente à propos de notre existence n'aurait pas été possible avant la modernité. Le philosophe Gary Snyder a qualifié une telle position de Nietzschéenne. Toutefois, comme met référence à Merleau-Ponty, Lacan, Damisch et Binswanger l'indiquent, dans le contexte intellectuel français dans lequel s'est formée la réflexion de Foucault au cours des années 50 et 60, l'œuvre d'art se mouvait aisément entre philosophie, psychologie, psychanalyse, histoire de l'art et l'esthétique. Maintenant, je vais dans l'héritage de Merleau-Ponty et de Lacan. Foucault n'a pu atteindre sa position qu'après avoir assimilé les points de vue sur la peinture de Maurice Merleau-Ponty et de Jacques Lacan. Dans sa conception de la peinture comme savoir plutôt que comme connaissance, Foucault s'appuie fondamentalement sur Merleau-Ponty, qui a écrit dans l'œil et l'esprit « Toute l'histoire moderne de la peinture, son effort pour se dégager de l'illusionnisme et pour acquérir ses propres dimensions ont une signification métaphysique. » Toutefois, afin d'expliquer le caractère central de la peinture, Merleau-Ponty s'est concentré sur l'expérience de celle-ci et ce faisant est retombé sur l'individualité. Ainsi peut-on lire dans l'œil et l'esprit. Le tableau ne se rapporte finalement à quoi que ce soit parmi les choses empiriques qu'à condition d'être d'abord autofiguratif. Il n'est spectacle de quelque chose qu'en étant spectacle de rien, en crevant la peau des choses pour montrer comment les choses se font choses et le monde, monde. L'approche historique par Foucault de la théorie de la peinture était en quête d'une structure plutôt que d'une individualité. Pour fonder sa signification philosophique, Foucault s'en explique clairement dans la préface de l'édition anglaise de Les mots et les choses lorsqu'il écrit « S'il est une approche portant que je rejette catégoriquement, c'est celle, appelons-la en gros phénoménologique, qui donne une priorité absolue au sujet de l'observation, attribue un rôle constitutif à un acte et pose son point de vue comme origine de toute historicité. Celle, en bref, qui débouche sur une conscience transcendantale. Il me semble que l'analyse historique du discours scientifique devrait, en dernier lieu, ressortir à une théorie des pratiques discursives plutôt qu'à une théorie du sujet de la connaissance. Comme l'illustre ce passage, l'appropriation par Foucault du point de vue de Merleau-Ponty sur la peinture devrait être considérée comme sélective et résistante vis-à-vis de l'expérience de l'observateur individuel auquel est préférée la peinture elle-même, c'est-à-dire une pratique particulière dotée de méthodes, de règles et de théories n'appartenant qu'à elle. Il est clair que Foucault relève le défi lancé par son professeur dans le dernier de des textes de celui-ci, sous la peinture. Dans le visible et l'invisible, publié en 1964, en effet, l'aîné de Foucault avait affirmé que son manque de familiarité avec l'histoire et même avec l'approche historique l'empêchait de légitimement entreprendre le travail que représente une méditation philosophique sur la peinture. En se tournant vers une analyse des Ménines, au début de 1965, Foucault, avec l'ambition qu'on lui connaissait, s'est attelé à une tâche que Merleau-Ponty ne pouvait accomplir, une approche philosophique de l'histoire de la peinture. Foucault a compris que le défi proposé par son professeur était de deux ordres. Montrer comment le statut philosophique de la peinture pouvait être historisé et que cette même histoire et ce qu'elle entraînait pouvait également contribuer à la philosophie. Le fait que Foucault ait procédé de façon chronologique indique la nature de sa réponse à Merleau-Ponty. Pour revenir à la citation qui ouvre ma communication d'aujourd'hui, en autrefois, la signification transformatrice de la peinture à laquelle Foucault adhère au cours de la dernière année de son existence prolonge son étude systématique de la peinture au cours de la période qui s'étend de, en gros, de 1965 à 64. À 64. La théorie psychoanalytique de Jacques Lacan n'a pas été sans influence sur sa conception de la peinture et le rôle qu'elle joue dans la conscience historique. Les textes de Foucault sur la peinture portent la marque de la dette contractée par Lacan à l'égard de Merleau-Ponty, particulièrement évidente dans les séminaires qui ont suivi la publication posthume de Le visible et l'invisible. Séminaire auquel Foucault a parfois assisté. Lacan et Foucault se sont donc imprégnés de l'attention à la peinture rencontrée dans le visible et l'invisible et ont conversé au sujet de ce livre. À l'époque, le regard, les relations scopiques vis-à-vis du sujet et le désir place la peinture au cœur des préoccupations de Lacan. Dans ce qui deviendra un livre « Les quatre concepts fondamentaux de la psychoanalyse », Foucault analyse les peintures canoniques de Léonard de Vinci, de Hans Holbein, d'Archimboldo, de Caravage, de Cézanne, de Matisse et de quelques autres, en s'appuyant en partie sur les théories de Pline, de Léon Battista Alberti, de Leonardo, de Merleau-Ponty et d'autres, qui apparaissent tous dans les séminaires. La constitue le visible et l'invisible dans la longue histoire des écrits sur l'art et l'esthétique qui a commencé avec les Grecs. Je le cite, cette tradition qui commence à Platon par la promotion de l'idée dont on peut dire que d'un départ pris dans un monde esthétique, elle se détermine d'une fin donnée à l'être comme souverain bien, atteignant ainsi à une beauté qui est aussi sa limite. Et ce n'est pas pour rien que Merleau-Ponty, Lacan dit, en reconnaît le recteur dans l'œil. Lacan considérait que pour Merleau-Ponty, la vision et la vue avaient un rôle capital pour les manières de l'homme de comprendre le monde, particulièrement en ce qui concernant la foi déplacée que l'homme avait mise dans la perspective. Ce terme de foi avait été utilisé par Merleau-Ponty même dans le titre provisoire qu'elle avait donné au premier chapitre de « Le visible et l'invisible ». Il l'appelle la foi perspective et son absurdité. Merleau-Ponty commençait par une mise en garde de ces termes. Nous voyons les choses elles-mêmes, le monde est cela que nous voyons. Des formules de ce genre expriment une foi qui est commune à l'homme naturel et au philosophe dès qu'il ouvre les yeux. Elle renvoie à une assise profonde d'opinions muettes impliquées dans notre vie. Ici, les questions de l'esthétique et de l'éthique s'imbriquent dans la vue et conduisent à une idée des limites de ce qui peut être vu et connu. Merleau-Ponty poursuivait en insistant sur les contradictions inhérentes. Je cite, « Si l'on se demande ce que c'est que nous, ce que c'est que voir, ce que c'est que chose ou monde, on entre dans un labyrinthe de difficultés et de contradictions. Ces limites ayant été observées par Merleau-Ponty, Foucault proposa dans Les mots et les choses d'établir leur ordre selon ce qu'il appelle une région médiane. Je le cite. Ainsi, entre le regard déjà codé et la connaissance réflexive, il y a une région médiane qui délivre l'ordre et son être même. C'est là qu'il apparaît, selon les cultures et selon les époques, continu et gradué ou morcelé et discontinu, lié à l'espace ou constitué à chaque instant par la poussée du temps, apparent à un tableau de variables ou défini par des systèmes séparés de cohérence, composés de ressemblances qui se suivent de proche en proche ou se répandent en miroir, organisés autour de différences croissantes, etc. Les séminaires de Lacan, qui se sont tenus juste avant la publication de Les mots et les choses, devraient être considérés comme étant en relation avec ses vues sur la limite du savoir et directement associés à ce livre. Lacan avait entrepris d'élaborer une théorie de l'inconscient sur la limite relevée par Merleau-Ponty, cet endroit où la vue, où le regard forme et décentre simultanément le sujet, que les yeux à la fois voient et sont aveugles. La peinture a fourni à Lacan une instantiation matérielle de l'opération des opinions muettes, déjà postulée par Merleau-Ponty comme opératoire dans notre croyance en ce que nous voyons. Rappelons-nous que plutôt déjà dans le langage indirect et les voix de la conscience, de la silence, Merleau-Ponty avait qualifié la peinture de langage tacite, qui parle à sa façon. Comprendre la peinture à la fois comme langage muet et comme parlant aux yeux qui peuvent cependant rester aveugles au savoir des choses et du monde fait penser à Lacan. Celui-ci postulait que les tableaux, en tant qu'objet matériel, pouvaient procurer un moyen de compréhension du champ scopique. Les tableaux constituaient, pour Lacan, des lieux à partir desquels jeter un œil à l'inconscient du sujet, c'est-à-dire à ce qu'il sait sans savoir qu'il le sait, plutôt qu'à sa pensée rationnelle. Dans son ouvrage sur la perspective, Damisch a considéré ce passage de Merleau-Ponty à Lacan comme une percée fondamentale de l'histoire de la philosophie. Je le cite. Elle se complique chez Lacan quand celui-ci se vient à nommer tableau la fonction où le sujet a se repéré comme tel. Le sujet, explique Damisch, qui est sujet de désir, à ne pas confondre si même tu t'y pousses dans l'office qui est celui de la perspective, avec le sujet cartésien, celui-là qui, dans le moment historiquement défini du cogito, se donne pour le corrélat de la science au sens moderne du mot, en même temps qu'il fait le présupposé de l'inconscient. Indice dès l'abord d'un clivage, d'une refonte, la Spaltung freudienne, et de la division expérimentée du sujet comme division entre le savoir et la vérité. Lacan a spécifiquement en tête le renversement de la pensée cartésienne, identifié après par Damisch quand il déclare au cours de son séminaire, je souligne d'abord que c'est en partant de la peinture que Maurice Merleau-Ponty a été plus spécialement amené à renverser le rapport qui, depuis toujours, a été fait par la pensée entre l'œil et l'esprit. Lacan considérait la peinture comme l'évidence du sujet décentré, c'est-à-dire ne pouvant être aisément énoncé ou exprimé, ainsi que l'avait dit Merleau-Ponty, excepté dans certaines déformations trahissant une foi muette en la perspective. On le sait, Lacan a trouvé cette foi trahie, dans la structure exemplaire de l'anamorphose, et précisément dans le crâne déformé au premier plan du tableau du Holbein, Les Ambassadeurs. Lacan a utilisé la peinture comme moyen de visualiser la schise entre l'œil qui a la foi et le regard qui voit. Dans la peinture, l'anamorphose a joué un rôle exemplaire pour l'idée que Lacan s'est faite de la perspective, car elle révélait, je cite, « comment dans la perspective de l'inconscient, nous pouvons situer la conscience. » De plus, Lacan a posé l'anamorphose à une idée phénoménologique plus classique selon laquelle, je cite à nouveau, « la perception n'est pas en moi, elle est sur les objets qu'elle appréhende. » Lacan a explicitement rejeté l'approche historique de l'art qualifiée de « jeu historique mouvant de la critique ». Par contraste, Foucault a compris la contribution psychoanalytique de Lacan à la peinture en termes strictement historiques. Je cite ici son entretien « Psychologie et philosophie » qui date d'une même époque. Je pense d'ailleurs que cet auteur précisément de l'élucidation de ce qu'est l'inconscient que la réorganisation et le redécoupage des sciences humaines se sont faits. C'est-à-dire essentiellement auteur de Freud et cette définition positive héritée du XVIIIe siècle de la psychanalyse comme science de la conscience et de l'individu ne peut plus valoir maintenant que Freud a existé. Comme je l'ai dit, Foucault aussi rejetait la phénoménologie. Mais il se distinguait de Lacan en cherchant à placer la peinture dans une position éthique stratégique, entre le sujet observateur et une transformation consciente pouvant en résulter. En clair, Foucault cherchait à historiser la conception lacanienne de la peinture. Dans la préface à l'édition anglaise de Les mots et les choses, Foucault s'intéresse au sujet dans la production d'un savoir qui repose sur les deux niveaux de la science et de l'histoire. Cet enchevêtrement des aspects moraux et naturels de la peinture et de la philosophie était au premier plan de l'âge classique. Louis Marin l'a bien montré plus tard dans son ouvrage « La critique du discours ». La complexité de cet enchevêtrement visualisé dans la peinture de cette époque ne pouvait qu'attirer Foucault, qui voulait comprendre la nature de l'écart entre les formes de savoir. Citons Foucault à nouveau, le problème du sujet en distinguant entre le niveau épistémologique du savoir ou de la conscience scientifique et le niveau archéologique. J'ai conscience de m'engager dans une voie très difficile. Et plus loin, en bref, j'ai essayé d'explorer le discours scientifique, non pas du point de vue des individus qui parlent, ni du point de vue des structures formelles qui régissent ce qu'ils disent, mais du point de vue des règles qui entrent en jeu dans l'existence même d'un tel discours. À la suite de Foucault, Kaja Silverman, historienne de l'art américaine, Kaja Silverman, dans son livre « The Threshold of the Visible World », a discuté l'idéalisation esthétique dont la peinture est partie prenante, comme un utile politique crucial. L'argumentation de Silverman nous permet de saisir combien la position de Foucault concernant la peinture était utopique dès le premier abord. Silverman a expliqué que l'identification avec l'idéal tel qu'on la rencontre dans l'art, bien que inconsciente, nous permet finalement de nous identifier et par là d'entrer en contact affectif avec des autres. Une part importante de l'explication de la transformation par l'esthétique à laquelle se livre Silverman, repose sur ce qu'elle appelle « the despised » en anglais. C'est un mot difficile, « the despised », le déprécié ou le mépris. Ils n'y sont plus des mots comme ça en français. Qui est un peu l'équivalent de ce que Hal Foster avait appelé avant elle l'anti-esthétique. Selon Silverman, les œuvres d'art non idéales provoquent à l'action, du fait de leur insistance sur notre résistance à l'assimilation d'une identification idéalisée. Les œuvres dépréciées, méprises, entraînent une forme plus consciente et plus active d'implication du spectateur, implication qu'on pourrait dire plus volontiers ouverte à l'éthique et à la politique. Par contraste, on ne peut manquer de constater dans le projet philosophique général de Foucault une tentative d'amener à la conscience des tableaux prisés, comme Las Meninas de Velázquez, dans le but de passer à l'action ou d'être transformé. L'on pourrait dire que Foucault a utilisé la peinture à des fins éthiques ou activistes, ce qui explique la longue relation qu'il a entretenue avec elle. Si, comme l'a suggéré Silverman, par suite de la valeur esthétique des tableaux, il est devenu difficile de résister à cette advenue à la conscience, le but recherché de transformation valait la peine. La facilité apparente de la rencontre esthétique avec la peinture satisfaisait l'attirance de Foucault pour l'ébranlement. Je cite les premières lignes de la préface à l'édition française de Les mots et les choses. Il dit « De toutes les surfaces ordonnées et toutes les plans qui agissent, pour nous, le foisonnement des êtres faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du même et de l'autre. » Le plaisir de la peinture présentait en particulier un défi que ni Merleau-Ponty ni Lacan n'avaient été en mesure d'affronter. Le premier à cause de son approche phénoménologique, le second à cause de sa quête de l'inconscient en ce qui demeure silencieux. Foucault respectait les peintures prisées, comme le balcon de Manet, parce que le plaisir qu'elles provoquent en lui contraste avec la plupart des autres choses du monde, activités sexuelles exceptées. Sous la forme d'un commentaire ironique sur la conception lacanienne du regard désirant, Foucault a attiré l'attention sur le rôle du plaisir dans l'idéation de la peinture, comme j'ai dit la semaine dernière. Écoutons-le. Ce que me plaît justement dans la peinture, c'est qu'on est vraiment obligé de regarder. Alors là, c'est mon repos. C'est l'une des rares choses sur lesquelles j'écrive avec plaisir et sans me battre avec qui que ce soit. Je crois n'avoir aucun rapport tacite ou stratégique avec la peinture. Je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions.